Chapitre 5. Toujours soutenu par les deux hommes, Richard suivit Esther qui marchait sur les talons du colosse lesté de Calan. À la tête du petit groupe, un des porteurs de lanternes se retournait très souvent pour voir si tout le monde suivait. Ses cheveux poisseux de sang, les bras pendants, Calan ne bougeait toujours pas. À la lueur de la lune, Richard voyait clairement les blessures provoquées par les épines de la haie dans laquelle la pitié silence l'avait emprisonné. Du sang coulant de ses plaies et d'autres coupures gouttait parfois du bout des doigts de la jeune femme. Richard portait le même genre de coupures, mais en moins grand nombre. Les épines avaient dû être enduites d'un produit spécial afin d'empêcher le sang de coaguler, car ses propres plaies continuaient à saigner. Par bonheur, il avait réussi à tuer la pitié silence avant qu'elle ait totalement vidé Calan de son sang. Grièvement blessée, sa femme avait néanmoins survécu. Pendant le trajet vers le village, Richard avait plusieurs fois eu envie de s'arrêter pour guérir lui-même son épouse. Mais il n'était pas en état de faire ça. Pour utiliser la magie thérapeutique, il fallait avoir en réserve des forces dont il ne disposait pas, donc il valait mieux compter sur une tierce personne. Dès que Calan serait tiré d'affaire, il devrait enquêter sur ce qui était arrivé aux hommes de la première phalange et à ses amis, Zed, Nietzsche, Kara. Non, ses plus proches amis ne pouvaient pas être morts. Pourtant, il y avait tous ces ossements humains. Chaque fois qu'un de ses alliés succombait, Richard en avait le cœur serré, alors périr d'une si atroce manière. À courte distance de la muraille, le petit groupe dut slalomer dans un champ de rochers, des fragments de parois qui s'étaient détachés formant un labyrinthe par endroits composé de pierres dressées naturelles. Des rochers plus ou moins plats, en équilibre sur deux autres, comme si la nature avait voulu élever quelques monuments à sa propre gloire. Après être passés sous quelques-unes de ces curiosités géologiques, les gens qui précédaient le sourcier s'engagèrent sur une étroite corniche qui gravissait le flanc de la falaise. Des broussailles le dissimulant, ce chemin devait être très facile à rater lorsqu'on ne disposait pas d'un guide. Jusque-là, Richard avait imaginé que des échelles permettaient d'accéder aux grottes où habitaient ses sauveteurs, mais apparemment, il n'y avait que la corniche, et ce n'était sûrement pas une promenade de santé. Aux endroits trop lisses, la roche semblait avoir été laborieusement taillée afin de former une sorte de piste. Grâce à la lumière des lanternes, le sourcier vit que le sol, sous ses pieds, était presque poli à force que des semelles l'arpentent dans les deux sens depuis des millénaires, ou, au bas mot, d'innombrables siècles. « Où sommes-nous ? » demanda Richard.
« C'est notre village, » répondit Esther par-dessus son épaule. « Stroiza !»
Richard faillit trébucher. Esther savait-elle ce que signifiait ce nom ? En ce monde, peu de gens comprenaient le haut d'Aran et le sourcier était du nombre. « Pourquoi vivez-vous à flanc de montagne ? Si vous vous étiez installé au milieu des champs, vous n'auriez pas besoin d'emprunter sans cesse ce chemin dangereux. »
« Notre peuple vit depuis toujours dans ces grottes. »
Voyant que cet argument ne convainquait pas Richard, Esther eut un sourire presque maternel.
« Vous ne pensez pas que ce chemin serait encore plus dangereux pour des ennemis qui voudraient nous attaquer en pleine nuit ? »
Richard leva les yeux vers les porteurs de lanternes qui progressaient de plus en plus péniblement.
« C'est un bon argument. Un seul défenseur au bout de la corniche devrait pouvoir tenir en respect toute une armée. » Mais les attaques sont-elles fréquentes ?
Nous sommes dans les terres noires,
répondit Esther, comme si ça suffisait à tout expliquer. Un léger crachin rendant la roche très glissante, Richard continua l'ascension d'un pas plus que prudent. La corniche n'étant pas assez large pour que trois hommes avancent de front, un de ses bienfaiteurs le suivait désormais, prêt à intervenir s'il glissait. Heureusement, aux endroits les plus délicats à négocier, des sortes de poignées de fer étaient fixées à la roche. Mais elle se trouvait sur la gauche de Richard, du côté de son bras bandé, puisque le plus grièvement touché. La douleur le torturant, il ne parvenait pas toujours à refermer ses doigts sur les prises de fer, devant parfois céder de la main droite dans une position bien peu naturelle. Une manœuvre qui ne facilitait pas la progression du sourcier, mais qui éliminait au moins tout risque de chute. L'homme qui le suivait se tenait souvent d'une seule main, utilisant l'autre pour pousser Richard ou l'empêcher de basculer en arrière. Chaque fois qu'il jetait un coup d'œil par-dessus son épaule, le sourcier s'étonnait d'être déjà à une altitude si vertigineuse. Devant l'entrée de la grotte principale,
un petit groupe d'hommes et de femmes attendait la colonne. Alors que Richard prenait pied sur une sorte de plateforme naturelle, ses gens reculèrent pour laisser assez de place aux nouveaux venus. Plus large qu'il l'imaginait en la voyant d'en bas, la gueule de la grotte donnait sur une sorte d'antichambre naturelle d'où partaient plusieurs tunnels qui s'enfonçaient dans les entrailles de la montagne. Découvrant que les deux étrangers ramenés par leurs amis étaient blessés, les villageois ne cachèrent pas leur inquiétude. Plusieurs chats émergèrent des ombres pour saluer Esther et ses compagnons. D'autres plus prudents restaient un peu en retrait. Presque tous ces félins, nota Richard, étaient d'un noir d'encre.
« Nous sommes soulagés de vous voir, » dit un des villageois. « Vous êtes resté longtemps dehors en pleine nuit. »
Esther acquiesça.
« Je sais, c'était inquiétant pour vous, mais il a bien fallu le faire. Par bonheur, nous les avons trouvés. »
Avant qu'Esther ait pu faire les présentations, Henrik émergea des ténèbres comme un diable de sa boîte et courut vers Richard.
« Seigneur Hall, vous êtes vivant !»
Des murmures coururent dans les rangs de villageois. Apparemment, tous n'avaient pas été informés de l'identité des étrangers en péril.
« Le seigneur Hall, celui qui dirige l'Empire d'Aran ?»
demanda un homme tandis que les murmures continuaient.
« En personne !»
répondit Richard entre ses dents serrées, tout ce qu'il pouvait faire pour lutter contre la douleur. Alors que tous les villageois faisaient mine de s'agenouiller, le sourcier eut un geste agacé.
« Pas de cérémonie, par pitié !»
Hésitant, tous finirent pourtant par se relever.
« Henrik !» dit Richard en souriant au gamin. « Je suis content de voir que tu t'en es sorti. »
Le colosse qui portait Callan la fit glisser de son épaule et plusieurs personnes vinrent lui prêter main forte. Esther présenta quelques villageois à Richard, puis elle entra dans le vif du sujet.
« Nos invités sont grièvement blessés, il faut les faire entrer. »
Esther prit la tête, la foule et un nombre assez grand de chats lui emboîtèrent le pas. Alors qu'il remontait un des tunnels, Richard remarqua qu'on avait creusé dans la paroi une multitude de salles qui évoquaient les alvéoles d'une ruche. Certaines de ces niches avaient une porte de fer, d'autres étant protégées par une sorte de rabat afin de préserver l'intimité de leurs occupants. Vivre dans un tel terrier, hélas, il n'y avait pas d'autre mot, ne devait sûrement pas être drôle tous les jours. Mais dans certaines circonstances, la sécurité n'avait pas de prix. Et pour être vêtu si sobrement, voire pauvrement, les habitants de Streuza ne devaient pas être du genre à rechigner devant la plus stricte austérité. Sinon, ils auraient au moins opté pour des couleurs qui ne se confondaient pas avec la teinte grisâtre de la roche. Esther tira sur la manche d'une femme qui marchait à ses côtés et souffla.
« Va chercher Sami. »« Sami ? Oui, nos invités ont besoin qu'on les soigne. »« Sami ? »
répéta la femme.
« Allons, dépêche-toi. »« Mais, Phil, je conduis le seigneur Hall et son épouse chez moi. »
Alors que la femme s'éloignait en quête de Sami, la petite colonne s'engagea dans un tunnel plus étroit. Puis Esther s'arrêta devant une lourde tenture en peau de mouton, l'écarta et entra, suivie par Richard et les hommes qui portaient Callan. Un des villageois s'empressa d'allumer toutes les bougies disposées dans une petite pièce circulaire. Reposant sur des tapis aux couleurs vives, une table, trois sièges et un coffre de bois composaient la totalité du mobilier. Quelques coussins de la même couleur que les frusques grises des villageois offraient la possibilité de s'asseoir par terre. Sur un geste d'Esther, les hommes qui portaient Callan l'étendirent délicatement sur une peau de bête déroulée dans un coin, d'autres coussins gris tenant lieu de tête de lit. Les compagnons de Richard l'aidèrent à s'asseoir par terre, le dos confortablement calé par un coussin.
« Il faut s'occuper sans tarder de vos blessures !»
annonça Esther à Richard. Elle se tourna vers deux ou trois femmes qui avaient suivi la colonne.
« J'ai besoin d'eau et de chiffons propres. Il faudra aussi prévoir des cataplasmes. Mais d'abord, je veux une aiguille, du fil et des pansements. »
Alors que les femmes sortaient à la hâte pour exécuter ses ordres, Esther s'agenouilla près de Richard. Très délicatement, elle lui souleva le bras gauche et desserra le garrot afin de regarder sous le bandage.
« Je n'aime pas la couleur de ce bras, »
marmonna-t-elle.
« Il faut nettoyer ces morsures et en recoudre plusieurs. »
Elle sonda le regard de Richard.
« Vous avez également besoin d'une aide plus pointue. »
Pour le guérir, comprit Richard, il fallait l'intervention d'une personne possédant le don. Se penchant sur Callan, il écarta de son front plusieurs mèches de cheveux, puis posa l'intérieur de son poignet sur la peau lustrée de sueur de sa femme. Elle brûlait de fièvre. « Mes blessures peuvent attendre. Je veux que vous vous occupiez d'abord de la mère inquisitrice. »
Esther se rembrunit. À l'évidence, elle estimait que Richard était la véritable urgence.
« Esther, je vous suis... je te suis très reconnaissante. Tes amis et toi, vous avez été parfaits, mais je veux qu'on soigne d'abord ma femme. C'est vrai, mes morsures risquent de s'infecter, mais Callan est inconsciente et sa vie ne tient peut-être qu'à un fil. Votre magicienne pourrait s'occuper de Callan pendant qu'on recoue et qu'on bande mes plaies. Je suis très inquiet et ça n'ira pas mieux tant que ma femme sera ainsi. »
Esther dévisagea Richard, puis elle eut l'ombre d'un sourire.
« Je comprends. »
Elle se retourna.
« Peter, va donc voir où en est Samy. »